We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Bonjour, bienvenue sur We Do Biz, la radio des TPE-PME. Je suis Vincent Lefebvre et j'anime cette émission L'Anté-Entrepreneur ou tout ce qu'il ne faut pas faire lorsque l'on entreprend. Concept d'émission relativement simple, nous partirons de cas pratiques réels que auront rencontré des professionnels de l'accompagnement qui se joindront à moi pour cette émission. Ils nous exposeront des cas et des difficultés qu'auront rencontré des entrepreneurs et nous essaierons de remonter à la théorie et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Évidemment, on ne parle pas de contre-exemple sans essayer de remonter à ce qu'il aurait fallu faire. Nous avons avec nous aujourd'hui pour cette émission Marielle Poisson. Marielle Poisson a 12 ans d'expérience en entreprise, dont 6 dans la direction juridique d'un groupe financier coté en bourse, ayant une activité de capital risque et capital développement. Ensuite, elle passe 17 ans en tant qu'associée chez Fidal, premier cabinet d'avocats en France, droit des sociétés, droit des contrats, fusion, acquisition, levée de fonds, conseil de PME et filiales de groupes dans leurs relations avec leurs actionnaires et leurs partenaires. Création en 2006 du cabinet d'Icaios, centré sur l'accompagnement des PME et particulièrement sur la transmission d'entreprises et l'accompagnement des start-up. Bonjour Marielle.
Bonjour Vincent.
Donc aujourd'hui, je vous accueille pour cette toute première émission, donc L'Anté-Entrepreneur. Avant de rentrer dans le cas pratique qui va orienter nos débats aujourd'hui, je vais vous demander de nous parler un petit peu de votre cabinet d'Icaios. Qu'est-ce que vous faites pour accompagner les entrepreneurs ?
Alors notre cabinet est fixé sur 4 axes. Un premier qui concerne la transmission des entreprises, donc les cessions et acquisitions, en particulier le LBO qui est très à la mode en ce moment sur les PME, puisque beaucoup de jeunes cadres ou de moins jeunes d'ailleurs souhaitent racheter une entreprise. J'en accompagne un certain nombre, entre 15 à 20 par an. Ensuite, l'accompagnement des créateurs, où nous nous occupons de l'architecture juridique des projets et de rédiger les actes indispensables, les statuts, les packs d'actionnaires, etc. Ensuite, la levée de fonds auprès des business angels ou d'institutionnels, le private equity, c'est-à-dire renforcement des fonds propres des fondateurs. Ensuite, dernier axe, la direction juridique en externalisation de services. Vincent a dit tout à l'heure que j'avais été directeur juridique de groupe et j'ai gardé une grande nostalgie de l'entreprise. Donc, j'aime participer dans la continuité à la direction juridique des groupes. Je participe donc au comité de direction. À ce titre, je fais des diagnostics de risques, j'analyse des contrats, des situations, des montages et j'essaye de les aider à trouver des solutions.
Donc Marielle, vous nous avez expliqué brièvement quelles étaient la nature de vos activités. Maintenant, j'ai envie de vous demander, qui sont ces entrepreneurs que vous accompagnez ? Quel est leur profil, leur niveau d'études, leur âge, etc., etc.
Alors disons que ceux qui sont déjà en situation sont des chefs d'entreprise. Il y a aussi des cadres de groupe. Dans le cadre des LBO dont j'ai parlé tout à l'heure, je donne une petite explication pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le LBO, c'est la reprise d'entreprise avec effet de levier, c'est-à-dire qu'on constitue une première dette qui est la dette bancaire qu'on appelle souvent dette senior. Et il y a également un renforcement des capitaux propres de l'entreprise quand c'est nécessaire par des business angels ou par des fonds d'investissement qui viennent accompagner le repreneur. Ces cadres de groupe ont entre 40 et 60 ans. Il n'y a pas d'âge pour acheter une entreprise, mais enfin, disons que la moyenne se situe dans cette fourchette. D'autre part, les créateurs qui sont des porteurs de projets, c'est également la même chose. Il y a des créateurs à tous âges. Je dois remarquer que l'effort gouvernemental et l'effort mis en place par des écoles comme Advancia fait que beaucoup de créateurs aujourd'hui sont des jeunes très imaginatifs qui n'hésitent pas à se lancer dans l'aventure. Donc, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir. Leur profil, c'est généralement Bac plus 5. Mais bon, il peut y en avoir aussi des autodidactes et il peut y avoir des gens qui ont Bac plus 18.
Donc Advancia, pour ceux qui ne connaissent pas, Advancia est la grande école de l'entrepreneuriat de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Nous allons maintenant passer sur le cas pratique que vous allez nous présenter aujourd'hui. Alors effectivement, c'est dans le feu de l'action que les entrepreneurs commettent des erreurs ou omettent des aspects primordiaux. Ces erreurs peuvent entraîner des difficultés, voire des mises en péril des projets entrepreneuriaux. Donc je vous ai demandé, avant cette émission, de préparer un cas que vous avez rencontré pour des questions de confidentialité. Si l'envie vous vient de présenter un nom ou un prénom, je vous inviterai à dire Bob ou Bobette, ça sera le principe de l'émission, de parler de la Bob's Company ou de la Bobette's Company quand il s'agira de donner le nom de l'entreprise. Alors, je vais vous demander de nous expliquer brièvement le cas pour que nous puissions un petit peu envisager quelle a été la difficulté rencontrée par l'entreprise.
Alors, je vais vous la raconter par rapport à le calendrier dans lequel je l'ai connu, parce que c'est plus didactique pour que vous compreniez. Trois associés viennent me voir. Ils veulent lever des fonds pour développer leur entreprise. Ils avaient préalablement constitué l'entreprise et elle avait déjà six mois, même peut-être un an d'existence. Il y avait un informaticien qui détenait 25% du capital, un homme commercial qui détenait 30% du capital, et le sol était détenu par le manager, qui était celui qui avait, disons, pris les rênes de l'entreprise pour qu'elle elle naisse vraiment et qu'elle soit structurée. C'est lui qui dirigeait l'entreprise.
Quelle était la structure juridique de l'entreprise ?
C'était une société anonyme. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le vecteur le meilleur pour faire une société, parce que c'est une petite PME, en tout cas, parce que c'est très lourd au point de vue juridique. Donc, ces trois garçons s'étaient associés. Ils avaient fait des statuts de société anonyme qu'ils avaient trouvés sur Internet. Ils avaient ensuite travaillé pendant 2 ans et demi, pour monter un logiciel qui était en fait un logiciel qui permettait de voir des images en 3D et des animations, qui était un des premiers du marché à l'époque, qui était extrêmement novateur. Donc, c'était tout à fait intéressant. Nous avons fait cette première levée de fonds auprès de Business Angel, qui s'est très bien passée. Le business model a évolué grandement pendant l'année qui a suivi. Néanmoins, je les avais mis en garde devant un écueil majeur qui n'avait pas été vu et ni géré à l'origine, qui était le pacte associé. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas organisé entre eux leurs relations et si ça se passait mal, le divorce, c'est-à-dire comment ils allaient se séparer. Là-dessus, une start-up, c'est très dur et ça mène, je dirais, à dure épreuve les relations humaines entre les membres de l'équipe. Moyennant quoi, au bout d'un certain temps, on a vu l'informaticien se renformer en lui-même tellement bien qu'il a été se mettre dans son lit et que plus personne n'a réussi à lui parler. Il s'est enfermé avec ses logiciels, ses codes sources. Et par conséquent, au bout de 3-4 mois d'inertie dans son lit, il avait visiblement décidé d'y rester un certain temps. Il était drogué de médicaments parce que son psychiatre avait essayé aussi de l'en sortir et il n'y arrivait pas. Et les associés et les business angels qui étaient entrés dans le capital, je crois même qu'il y avait 2 levées de fonds qui avaient eu lieu au moment où c'est arrivé, ce qui fait qu'il y avait pas mal d'actionnaires autour de la table. Tout le monde attendait qu'il aille mieux. Et finalement, il n'a pas été mieux et le projet a dû s'arrêter. Donc, ça veut dire qu'on a dû liquider la société parce qu'il n'y a pas eu moyen de gérer la crise. Et c'est très difficile de la gérer postérieurement, donc il vaut mieux le faire a priori.
Alors, sans forcément tomber dans ce cas extrême de l'associé qui se met totalement en veille, est-ce que c'est quelque chose de récurrent, ce type de problématique de relations interassociées ?
Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui nous arrivent, malheureusement, sans avoir prévu. Et donc, ils sont un certain nombre. C'est une équipe, par exemple, je prends un autre exemple, c'est une équipe de gens qui travaillent dans une grosse boîte. Ils font une spin-off, c'est-à-dire, en fait, ils créent une société sous l'égide de la grosse boîte qui garde, par exemple, 10%. Ils sont une équipe, ils ont travaillé ensemble depuis des années, ils ont confiance tous entre eux. Et puis... au fur et à mesure des années, la boîte marche bien, il se développe. Et puis, il y en a un ou deux qui lâchent le projet. Ça n'a pas été prévu. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est une question classique. Ou alors, ils ne s'entendent plus. Qu'est-ce qui se passe ? Qui récupère les actions de celui qui ne travaille plus ? Je crois que quand il y a une équipe qui se met ensemble pour faire un projet, il faut prévoir le moment où il y en a un qui sort. Il n'y a aucune raison que ceux qui ne travaillent plus dans le projet ou qui n'apportent plus leur énergie, on n'est pas obligé de travailler à plein temps. J'en connais qui travaillent à temps très partiel sur le projet, mais ils apportent une vraie valeur. Donc c'est normal qu'ils gardent des parts. À partir du moment où on n'est plus investi dans le projet, c'est normal qu'on cède ses parts et qu'on ne profite pas au boni ou à l'évolution financière de la société.
Donc, ça devient une menace réelle, ces problématiques de relations des associés.
Exactement.
Donc, nous allons attaquer maintenant la dernière partie de cette émission, à savoir les actions, qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que le doit faire l'entrepreneur quand il se retrouve, comment il doit anticiper pour éviter de tomber dans ce cas un peu dramatique que vous venez de nous présenter. Donc, comment, Marielle, doit-on appréhender la relation inter-associé d'un point de vue juridique ?
Déjà, il faut se poser des questions qui ne sont pas du tout juridiques, qui sont simplement, est-ce qu'on s'entend bien ? Qui fait quoi ? Parce que souvent aussi, ils ne savent pas comment ils vont se répartir les fonctions dans la future entreprise. Et puis, s'il y en a un qui lâche le bateau, qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'il veut racheter ? Est-ce qu'il y en a un qui veut continuer et pas l'autre ? Pour combien de temps on est là ? Enfin, il y a des questions clés à se poser. Voilà. Donc il faut que la petite équipe ou la grande équipe se soit bien regarder son nombril à l'intérieur et bien remuer les questions qui fâchent avant de venir voir un avocat ou un conseil.
Donc l'avocat devient une personne qui surveille la relation entre les individus.
Oui, l'avocat en fait essaye de faire sortir les choses qui ne seraient pas sorties par rapport à cette auto-analyse. Son rôle, c'est de vérifier que les associés se sont bien posés les bonnes questions. Et ensuite, quand il s'est assuré de ça, c'est de proposer des solutions juridiques aux questions qui ont été posées et ensuite de les mettre en œuvre.
Nous avons touché du doigt avec cette problématique de la relation interassociée, une des premières, voire la première raison de défaillance des sociétés et d'entreprises. Une question plus particulièrement par rapport au choix de l'avocat par les entrepreneurs, tout simplement, comment un entrepreneur qui doit faire appel à un avocat, comment il doit choisir? Quelles sont les clés pour être sûr de la relation qu'on aura à son avocat et de la qualité de son travail?
Je dirais que d'abord, je vais faire une réponse qui n'est pas une réponse d'avocat, parce que je ne me sens pas toujours très avocat. Je pense que déjà, il faut comprendre ce qu'il dit. Si l'avocat ne comprend pas ce que dit l'entrepreneur et que l'entrepreneur ne comprend pas ce que dit son avocat, ce qui est dans 80% des cas fréquents, je pense qu'il y a une mauvaise relation et on ne se comprend pas et donc personne ne fait du bon boulot. Je crois qu'il faut aussi repartir à la chaîne de la valeur. C'est-à-dire si un avocat est quelqu'un qui doit créer de la valeur au sein de l'entreprise, c'est un membre de l'équipe et il doit apporter quelque chose. Donc je vais compléter sur une chose qui est importante, c'est non seulement on doit avoir un bon feeling, mais ensuite, on doit se comprendre et on doit surtout aussi avoir une confiance réciproque. C'est-à-dire l'entrepreneur doit dire ce qui lui fâche, il doit dire à son avocat quand ça ne va pas. Et l'avocat doit avoir le courage aussi de dire quand lui, il y a des choses qui ne vont pas. Et dernier point très important, parce que personne n'ose en parler, mais c'est fondamental, les problèmes des honoraires. Et là-dessus, je pense que si on a parlé de start-up là, ou de gens qui s'associent, donc c'est des sociétés qui sont jeunes, qui ont des moyens financiers limités, un avocat qui ne prend pas en compte cette situation pour facturer des honoraires, d'abord il doit proposer un budget, deuxièmement il doit prendre en compte que l'entreprise n'a pas de grosses ressources, et il doit, je dirais, comme les entrepreneurs, s'investir pour le futur. Évidemment, il espère un retour et une continuité, si ça a bien marché, son retour sur investissement sera payant.
Merci Marielle Poisson pour votre apport d'expertise et votre éclairage. À très bientôt sur WeDoBiz, la radio des TPE-PME, pour une prochaine émission de l'Anté Entrepreneur ou tout ce qu'il ne faut pas faire lorsque l'on entreprend. Au revoir.